Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission sur Radio Évasion, au programme ce midi de l'environnement au sens large avec un angle différent. Cette fois-ci, vous avez l'habitude d'entendre régulièrement nos partenaires au micro du LEM, Bretagne Vivante, Eau et Rivière, viennent souvent ici. Et aujourd'hui, c'est deux étudiants en formation qui viennent nous voir pour nous faire découvrir leur formation, le Master Sciences de la Mer, option expertise en gestion de l'environnement littoral.
LEM, l'émission. Mission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
LEM, pour cette première partie d'émission, s'intéresse à un master. Pour une très bonne raison, l'Université de Bretagne Occidentale à Brest ouvre ses portes le 7 mars et le master Sciences de la Mer, option expertise en gestion de l'environnement littoral sera présent. Pour découvrir cette formation, mais pas que, parce que c'est toujours intéressant de connaître les motivations et le pourquoi du comment, nous sommes avec Loïc et Noé. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Alors, dites-nous tout sur cette formation. Quels en sont les objectifs ?
C'est une formation qui a pour but de former des jeunes à la gestion du littoral, à être gestionnaire de l'environnement littoral à terme de cette formation. Et donc, c'est une formation qui est pluridisciplinaire. On a de tout. Enfin, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et c'est ça qui fait notre force, je pense.
Oui, c'est ça. En fait, on est un groupe, une vingtaine à peu près en Master 2. On a des biologistes, des géographes, des juristes. On a vraiment des profils très différents. Et en fait, c'est cette pluridisciplinarité aussi qui fait qu'on peut attaquer plein d'angles, le littoral par plein d'angles différents et donc avoir des visions, une vision globale de cet espace.
Alors, au final, est-ce que c'est vraiment un Master de géographie ou pas ?
Pas vraiment, faut pas dire ça parce que sinon les biologistes vont se vexer. Mais non, on a à peu près la moitié des étudiants qui viennent de géographie et l'autre moitié qui viennent de biologie. Après, on a toujours des gens qui ont des parcours un peu plus différents. Par exemple, là, il y a un M1 qui a une licence de mathématiques. Il y en a qui viennent de master qui étaient en éducation ou pour devenir prof, etc., qui se réorientent. Il y en a qui viennent de... qu'on fait des formations avant également qui font le Master EGEL en deuxième master. Les profils sont assez différents et ouais, c'est assez riche.
Le matheux, là, comment il fait pour s'en sortir ? Parce qu'il y a beaucoup de contenu quand même. Enfin, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire un petit peu les deux années ?
Par exemple, en première année de master, on va avoir des cours, des unités d'enseignement en fait, qui vont être très variées. La première année est vraiment assez théorique en fait, sur des cours sur les environnements tropicaux, par exemple, où on va étudier les récifs coralliens, la mangrove, les herbiers. On va aussi étudier tout ce qui est plus local avec des sorties sur le terrain en biologie où on va se balader sur la rade de Brest en bateau avec un prof qui nous emmène, nous montre toutes les espèces qu'on peut trouver. On va aussi faire des sorties plus de géographes avec des études de paysage, des études de géologie, de géomorphologie sur les plages. C'est vraiment... assez varié en première année, et en deuxième année, on a plutôt du projet, des choses plus concrètes. Donc là, c'est sûr que quand on a certaines bases en venant de géographie ou de biologie, on s'en sort bien. Après, pour notre copain en mathématiques, on se doute que ça a pu être parfois compliqué, mais on s'en sort. On est bien accompagné.
De toute façon, on fait tous notre maximum pour en apprendre le plus, et je pense qu'il en fait partie aussi.
Est-ce que ça répond la formation ? Est-ce que vous trouvez qu'elle répond à des grands enjeux, des grandes problématiques d'actualité ?
Je pense que on est tous conscients des problèmes environnementaux qui nous font face, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est montée du niveau marin, réchauffement, enfin dérèglement climatique, etc.
Je vois que tu as utilisé dérèglement. Il faudrait que tu nous expliques pourquoi.
Dérèglement climatique parce que c'est pas spécialement un réchauffement partout, on a également des refroidissements, c'est temporaire, c'est saisonnier, etc. C'est des périodes, ça se trouve dans quelques années il fera bien plus froid, on n'en sait rien. Mais oui, cette formation elle répond à des enjeux actuels et futurs aussi, et c'est une formation du futur, on pourrait dire.
Oui, sans forcément apprendre à les anticiper, on sait au moins, on apprend au moins à essayer de s'adapter à ces changements, à mettre en place des gestions. En fait, on devient des gestionnaires et c'est là où, sans vouloir devenir des scientifiques du GIEC, on peut au moins essayer d'avoir les bonnes réponses aux problèmes qui se proposent à nous.
Ouais, parce que finalement, d'étudier toutes ces questions, on ne prend pas trop de recul là-dessus. Est-ce qu'on ne prend pas justement ces problématiques qu'on peut parfois prendre un petit peu à cœur, quoi ? Est-ce que finalement, on n'a pas trop un regard distancié sur les questions ?
Bah justement, ça c'est le but de la formation aussi, c'est de nous apprendre à prendre du recul, parce que nous on est baigné dedans, on est là-dedans depuis 2 ans ou même en fonction de notre formation, de nos intérêts, etc. Mais on nous apprend à prendre du recul, à dire bah voilà, là il y a des problèmes, mais c'est pas des gros problèmes, et à échelle du monde ou à l'échelle de la France ou d'un lieu, c'est totalement différent et les problèmes sont pas les mêmes.
Oui, et en plus, on, dans cette formation, on est amené à être confronté à du milieu qui n'est pas universitaire, hein, du milieu professionnel, et c'est là aussi où on apprend à vulgariser l'information, essayer de faire passer notre discours auprès de gens qui ne sont pas forcément initiés à tout ça, et donc c'est là où on a aussi des retours en fait sur ce qu'on apporte, et où ça nous permet nous-mêmes d'avoir un recul sur tout ce qu'on dit.
Alors, on va revenir un petit peu sur le déroulé de la formation. Là, vous êtes tous les deux donc en deuxième année de master. Ça sent la fin des études.
Exactement.
Malheureusement.
Oh, c'est bien aussi après. Alors, racontez-nous un petit peu comment se structure cette deuxième année. Parce que vous dites que la première année, elle a un petit côté théorique. Hein, c'est-à-dire qu'on accumule, on étudie beaucoup de choses pendant une année. Puis on met ça à profit en deuxième année. C'est un peu ça l'idée, j'imagine.
Bah, c'est ça un peu. En fait, la première année, c'est surtout de la remise à niveau pour tout le monde. Comme on a des backgrounds, enfin des
profils, si tu peux le dire,
des profils,
des,
voilà, c'est ça.
C'est bien aussi,
des profils
marche.
Assez différents. Il faut remettre un peu tout le monde au même niveau, et ou en tout cas les bonnes bases pour le littoral, quoi. Et donc du coup en deuxième année, c'est quelque chose qui est donc bien plus, enfin on met à profit nos connaissances à travers divers outils. Enfin, on a l'atelier professionnel, on a les tables rondes, on a les stages, etc. Donc on a différents outils, ouais, pour mettre à profit nos connaissances.
Hop, racontez-nous un petit peu les tables rondes, parce que ça c'est un grand moment, j'imagine, parce que c'est quelque chose aussi où il y a de l'enjeu. C'est le master qui sort des murs et qui va à la rencontre aussi du public.
Ouais, exactement.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est particulier parce que c'est les premières fois où on est habitué à s'exprimer devant une classe, devant un groupe réduit de personnes, mais là c'est des moments où on peut avoir un public beaucoup plus large sur des sujets très divers, et donc c'est les premières fois où on doit parler devant peut-être 100 personnes. Donc c'est vraiment impressionnant, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et bon, cette année c'était un peu particulier, je pense qu'on va...
Ouais. On va aborder le sujet. C'était, alors c'était dans un cadre complètement différent par rapport aux autres années là.
Ouais, bah c'était le colloque IL 2019, donc qui a été organisé entre autres par Louis Brigand. Et donc du coup, c'était un colloque assez énorme où il y avait des centaines de personnes qui sont venues. Et donc toutes les tables rondes étaient sur le thème des îles. Et donc ça nous a permis de faire des tables rondes sur la science des îles, la nissonologie.
Au Quartz
Ouais, exactement, à Brest. Et il y en a eu également à Ouessant et à Plouzané, à l'IUM. Il y en a eu plusieurs. Donc ouais, c'est vrai que c'était un contexte particulier, mais c'est pas un contexte qui se représente tous les ans.
Tu l'as un petit peu évoqué, Noé, mais qu'est-ce que vous apprenez là sur ces moments de table ronde là ? Il y a un petit côté logistique, organisation,
ouais,
qui est pas négligeable, mine de rien, parce que pour contextualiser, vous invitez plusieurs invités à parler sur à discuter, à évoquer une thématique.
Ah ouais, tout à fait. Alors en plus, cette année, donc, comme dans le cadre du colloque, on a vraiment fait, mais c'est formateur aussi, hein, mais on a vraiment fait les petites mains de devoir gérer toute une organisation, avoir donc plusieurs personnes qu'on doit faire aussi cohabiter pendant une table ronde. C'est aussi un exercice oral assez impressionnant pour celui qui anime, de devoir gérer le temps de parole de tout le monde. On voit que c'est un vrai métier, et c'est quelque chose, je pense, avec les ateliers dont on va parler après, qui est vraiment un des trucs les plus formateurs de la formation, et c'est très important, et ça tient beaucoup à cœur aux enseignants de maintenir ça chaque année.
C'était quoi les thèmes des tables rondes cette année ?
Alors, des tables rondes, il y avait la nissonologie, donc la science des îles, il y avait Brest et les îles, les liens que peuvent entretenir ces deux entités.
Il y avait l'économie sociale et solidaire dans les îles.
Alors, dans les moments forts, il y a aussi les stages, parce que sur 2 ans, il y a quasiment 4 à 6 mois que vous passez en entreprise, en association ou ailleurs, ou même à l'université, c'est aussi possible.
Ouais, tout à fait. Les stages, c'est...
Bah, on peut même aboutir à quasiment 10 mois. En fait, on peut faire 4 mois en M1. On peut quasiment faire sur 2 ans, faire 1 an en stage. Donc, c'est... Là aussi, c'est un des exercices où on apprend concrètement ce que c'est nos futurs métiers. Donc là, on a des profils assez similaires avec Loïc. On fait un peu les stages sur l'érosion des côtes, tout ça. Mais il y a vraiment, c'est un endroit où les gens peuvent vraiment s'épanouir le moment des stages. Avec des, en reprenant l'exemple de notre promo, on a des biologistes qui vont faire des études d'estomac de poissons, par exemple, pour identifier ce que le poisson a mangé. Il y en a qui vont travailler sur les pollutions plastiques ou les pollutions aux hydrocarbures. Nous, on est sur les risques côtiers.
On est sur les règlements qu'il y a dans les ports, etc. Enfin, c'est assez divers, assez varié comme sujet, les stages.
Vous les avez fait où, vos stages ?
Alors moi, l'année dernière, j'étais au parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Et en fait, je faisais un inventaire de l'avifaune, donc des petits oiseaux, d'un oiseau qui s'appelle le gravelot à collier interrompu. Et donc, mon boulot, c'était de me balader sur les plages, globalement, et de compter tous les oiseaux, tous les nids, les mettre en protection, mettre des enclos. Quand on a un espace aussi touristique que le bassin d'Arcachon, il faut mener des actions pour protéger ces petits oiseaux, ces petits piafs.
Avec une distance d'approche raisonnable, quand même, pour les observer.
Ouais, bien sûr. J'avais des belles jumelles prêtées par le parc. Mais c'est un truc, justement, c'est ça qui est... Ce master est génial, c'est que moi, j'étais pas du tout ornithologue à la base. J'avais quelques connaissances, mais je me suis vraiment éclaté pendant 4 mois à faire un stage comme ça. C'est vraiment assez génial.
Et Loïc ?
Et moi, j'étais sur un stage au conseil départemental du Finistère, où, en fait, je devais réaliser un état des lieux de la gestion du trait de côte, en fait, dans le département. Et donc c'était un stage de 5 mois entre conseil départemental, le CEREMA qui est un organisme, enfin un bureau d'études à échelle nationale, et l'UBO en fait qui nous encadrait. Donc c'est un partenariat qui s'appelle le partenariat Litorisque, et donc du coup ce stage faisait partie de ce partenariat.
Alors on continue à décrypter un petit peu le parcours de deuxième année dans ce master. Il y a aussi le voyage d'études. Alors ça c'est passé le voyage d'études là ?
Non, pas encore.
Pas encore,
le voyage d'études, il est en pleine organisation et en pleine finition là. Et ça aura lieu dès la semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, la troisième semaine de février, où on partira aux alentours de Bordeaux, Montpellier, puis Marseille. Et on fera un petit tour des côtes du Sud.
Un des gros dossiers de cette deuxième année de master, c'est les ateliers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est que ce principe des ateliers ?
L'atelier, c'est en fait c'est une réponse à un commanditaire, en fait, tout simplement. Ça va être une commune, un particulier, ça peut être un département. Enfin, c'est assez divers comme profil. Et en fait, on nous demande de répondre à une attente. Là, il y a différents sujets. On a la gestion du trait de côte à Plouhinec, dans le Finistère. On a la réalisation d'une application d'observation des risques côtiers qui se fait en partenariat avec l'IMT Atlantique à Plouzané. On a également un atelier à Govillan, une île privée dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan. C'est dresser un bilan patrimonial. Et enfin, on a également un dernier qui est la suite du colloque Île 2019, qui est la réalisation d'un manifeste, la mise en place de la trame du manifeste, en fait, des îles.
Donc, pour revenir sur l'étude sur l'île de Govillan, si je ne me trompe pas, c'est une étude patrimoniale initiée par le propriétaire de l'île.
Ouais, c'est ça, en fait. C'est donc une demande de cette personne qui voulait savoir tout ce qu'il y avait, en fait, sur son île, qui était très curieux de connaître plus en détail son île qu'il peut parcourir quand il revient chez lui.
Alors, ça va être quoi, ce patrimoine ?
Eh bien, alors, en fait, il va y avoir tout ce qui est algues, tout ce qui est végétation, tout ce qui est faune et flore, en fait. On va aussi avoir le recensement de toutes les formes géologiques, géomorphologiques. Bien sûr, nos collègues qui travaillent dessus ont fait aussi toute l'histoire de l'île. Ils ont rencontré des anciens habitants. C'était assez génial. En fait, c'est presque la réalisation de... Moi, j'aime bien les charrier avec ça, mais c'est une page Wikipédia. l'encyclopédie, en fait, c'est, et de le faire de la manière la plus scientifique et la plus complète possible. C'est un exercice qui est assez exigeant et assez enrichissant, en fait, je pense.
Vous connaissez les motivations du propriétaire à vouloir tout ça, hormis acquérir un stock de connaissances ?
C'était vraiment la connaissance au départ, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y avait une première étude qui avait été faite par Louis Brigand, un de nos professeurs de géographie.
Initiateur du colloque Hill.
Exactement. Et donc, il avait fait cette étude il y a une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était réaliser une nouvelle étude plus approfondie et complémentaire également pour en savoir plus sur l'île de Gauvillon.
Alors l'autre atelier qui a l'air chouette aussi là, c'est cette histoire d'application qui est censée donc relever les qui contribue à... En fait, c'est quoi c'est... Parce que j'ai lu l'intitulé « Étude pour la construction d'une application du relevé de marques d'érosion et de submersion du littoral ». En gros, c'est quoi? C'est de la cartographie participative?
En fait, c'est une application... il y en a plusieurs qui existent déjà comme ça, qui ont été développées par différents organismes. Et c'est une application qui permet à tout citoyen de relever des marques de submersion. Par exemple, quand l'eau rentre dans une ville... suite à une tempête ou quoi que ce soit, il y a des marques qui sont laissées sur les maisons ou quoi que ce soit. Et donc, c'est photographier ces marques-là, photographier également les marques d'érosion quand on a une falaise qui s'éboule ou quoi que ce soit, pour aider en fait tout simplement la science et puis les gestionnaires à savoir comment gérer le littoral. Et en fait, cette base de données, après, elle peut permettre d'augmenter toute la connaissance qu'on a sur une commune ou sur un littoral.
Ou de focaliser l'attention sur certains secteurs et puis peut-être développer un suivi par la suite.
Voilà, exactement, c'est ça.
Alors, il y a aussi, toujours en lien avec le colloque Hill 2019 aussi, ça c'est un beau projet, pour les élèves impliqués, c'est la réalisation d'un livre, en fait, quoi. C'est ça ?
C'est exactement ça. C'est un moment où... C'est un groupe assez réduit, pour le coup, c'est 3 personnes. Mais qui travaille à la réalisation de tout le contenu en fait qui a été ressorti de ce colloque, dont la dernière table ronde dont on se souvenait pas le nom en fait portait sur le bilan de ce colloque. Et donc la réalisation de ce livre, ou du moins sa trame, c'est mettre en forme déjà, dégraisser tout ce qui a été fait pour dans quelques années, on espère le plus tôt possible. Permettre la sortie de l'ouvrage, du manifeste. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra exactement, mais de ce bilan de Hill 2019.
Alors, on revient sur l'étude du trait de côte que vous menez sur Plouhinec. Racontez-nous un petit peu le contexte.
Ça fait partie en fait du partenariat dont je parlais tout à l'heure, dans lequel j'ai réalisé mon stage, le partenariat Littorisk. C'est en fait une commune qui se posait des questions sur son littoral. C'est des personnes en charge à la commune de la gestion du littoral qui se sont dit on remarque qu'on ne fait pas une gestion assez complète et assez, on prend pas assez de recul sur chacune de nos actions. Et donc du coup, on voudrait savoir comment fonctionne notre littoral et comment on pourrait le gérer pour que dans 40 ans, en fait, on n'ait pas les soucis qu'on a aujourd'hui.
Quels sont les soucis actuellement ?
Alors, c'est assez mesuré, mais on a une érosion du trait de côte, c'est-à-dire un recul en fait des plages et des dunes, une diminution des stocks de sable. Et on a également, c'est surtout le problème engagé par la mairie, de recul du sentier côtier en fait. On a une servitude qui est obligatoire normalement, comme le trait de côte recule, ce sentier recule également, sauf qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire reculer. Et donc c'est là tout l'enjeu de cette étude.
C'est ça, parce qu'après le sentier, il va grignoter sur le terrain.
Voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Qui appartient à quelqu'un, forcément, derrière. Ah, quoi.
Exactement. Ouais.
Et comment vous faites alors? Il y a des relevés de terrain?
Alors, on a plusieurs angles d'approche. On a les relevés de terrain sur le sentier. En fait, on a eu une équipe. On s'est divisé le travail. Et en fait, on a une équipe qui a été chargée de parcourir en fait tout le sentier littoral de long en large. Ça fait 8 km, il me semble. Et pour relever à chaque endroit où est-ce qu'il y avait un éboulement de sentier, où est-ce qu'il y avait une érosion, où est-ce que le sentier pouvait être en bon état aussi, il faut le dire quand il est en bon état. Donc ça, c'était une chose qui a été faite d'un côté. De l'autre côté, on a aussi beaucoup travaillé sur des cartes, des photographies aériennes anciennes, pour voir par comparaison, où se situait le trait de côte il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a, voilà, pour essayer de faire des projections, en fait, pour se dire dans 40 ans, le trait de côte sera ici, dans 20 ans, il sera là, et donc il y aura tels enjeux touchés, et donc à partir de
et
là...
Ça a bougé beaucoup quand même sur 40 ans ou pas sur Plouvinec?
Alors en fait, on se rend compte que ça a bougé. Ça, en fonction des plages, ça a bougé globalement de 2,50 m. Il y a une plage qui est un peu...
De recul,
2,50 m. Donc en 40 ans, il y a une plage qui a bougé de 5 mètres, c'est un peu plus. Et donc là, c'est là où on a des gestions plus dures, par exemple, ou des gestions différentes. On adapte la gestion en fonction de ça. Après, il faut savoir qu'à l'échelle de la France, si on regarde les villes du sud-ouest, par exemple, comme Alacano, sur les grandes plages sableuses, c'est des reculs qui sont de 60 mètres, donc c'est mesuré, même si il faut le prendre en compte dans l'aménagement du territoire.
Et il n'y a pas de zone, entre guillemets, en accrétion, des zones qui avancent ?
Alors, sur la commune, c'est assez compliqué de dire ça, mais c'est surtout... Ouais, on a du recul sur des longues périodes, mais après, sur des temporalités plus courtes, par exemple, entre l'été et l'hiver, etc., on a des différences de dynamique, et donc du coup, on peut avoir de l'accrétion, effectivement, que ce soit de sable ou de galets.
Et l'objectif de ces études, c'est ensuite de les restituer à une collectivité, là, en l'occurrence, la municipalité de Plouvinec.
C'est ça. En fait, le but, c'est de dresser des diagnostics, de proposer des solutions de gestion, et ensuite de faire une restitution. Et donc là, la restitution, elle a eu lundi, devant les personnes qui... Enfin, nos commanditaires, c'est-à-dire la commune, le département. Et ensuite, il y avait également d'autres personnes, des personnes de la DDTM ou...
Alors, la DDTM, tu peux resituer ?
Direction départementale des territoires et de la mer. Enfin, c'est des gens du département, de la région ou d'autres communes même qui veulent appliquer cet atelier aussi sur leur territoire.
Et vous proposez, au passage, c'est votre rôle au travers de cet atelier de proposer des solutions pour protéger le trait de côte ?
Alors, à notre échelle, dans cette étude préalable qu'on a faite, en fait, on ne va pas aller beaucoup plus loin que des stratégies de gestion avec des préconisations de modes de gestion particuliers, comme par exemple dire là, dans ce coin-là, il faudrait revégétaliser, mais on ne va pas aller dans l'étude, dans le plan d'action, ce qu'on appelle le plan d'action concret, à une échelle plus fine, en disant il faudrait tant de mètres de revégétalisation, tant de mètres de ganivelle à poser pour canaliser le chemin. Là, on était plutôt à un angle encore, un angle plus large.
Sur le constat, quoi, sur l'état des lieux. Quoi.
C'est ça, l'état des lieux et des grandes orientations de gestion.
Mais la suite, c'est un approfondissement de ce travail par des stages.
Voilà.
Très bien. Bah, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Je ne vous ai pas posé la question, mais finalement, les motivations en entrant dans le master et maintenant, presque à la fin, elles n'ont pas bougé.
Pour certains,
est-ce que les convictions sont intactes ?
Oui, les convictions sont intactes, je pense. Les motivations ont probablement changé. Mais bon, on en ressort, je pense, assez content de cette formation.
Eh bien, moi, j'ai découvert la Bretagne, donc je suis assez content d'être venu jusqu'ici, jusqu'au bout du monde pour ça. Mais je suis content de tout ce que j'ai appris. Ouais.
Et après ?
Après, c'est ça le...
Bon, déjà le stage.
Voilà, c'est ça. Il y a déjà un stage qui arrive là en début mars et donc qui pourra nous permettre de nous former et de rentrer potentiellement chez notre prochain employeur. Mais après, on a déjà la restitution du stage ensuite, en début septembre. Et après, on verra. Il y en a potentiellement qui vont refaire des études derrière, qui vont partir en thèse.
Ou faire une thèse 10 ans après.
Mmh. Exactement.
Et puis dans quelques années, ministre de l'Environnement, sûrement.
Bah oui.
Qui sait ? Mais après, il ne faudra pas devenir comme Yves Cochet.
Non.
Il faut rester raisonnable. Oui. Merci à vous. Donc, on rappelle, vous êtes toujours étudiant du master Sciences de la mer, option expertise en gestion de l'environnement littoral. Et vous serez présent à Brest le 7 mars à Ségalin pour la porte ouverte ?
En fonction des stages. Si, alors, toi, Noé, tu seras...
Moi, peut-être. Je garantis rien aux futurs étudiants. Mais
moi, je pense que je ne serai pas là, étant donné qu'il y a les stages qui arrivent.
Voilà, donc si vous voulez découvrir la formation, le master SML EGEL, donc expertise et gestion de l'environnement littoral, c'est à Brest le 7 mars à la fac Ségalin, tout simplement.
Exactement.
Merci à vous.
Merci beaucoup.